écoutez RFI, il est 2h ici à Paris, minuit en temps universel.
Gali Bonin.
À la une de ce journal, après avoir pris le palais présidentiel par la force, il le prend maintenant par la voie de la démocratie. Au Gabon, le putschiste Brice Clotaire Oligui Nguema est élu premier président de la 5e République avec plus de 90% des voix. Volodymyr Zelensky appelle Donald Trump à se rendre en Ukraine pour constater les dégâts de la guerre. Une invitation qui survient après une frappe russe meurtrière contre des civils dans une ville du nord-est du pays. La situation sanitaire est critique à Gaza. Médecins sans frontières dénonce un manque d'accès aux soins au moment où Israël vient de détruire un des derniers hôpitaux encore opérationnels. Et l'État français devra se serrer la ceinture un peu plus pour rentrer dans son budget 2026. Le ministre Éric Lombard estime les économies nécessaires entre 40 et 50 milliards d'euros. Après un an et demi de transition militaire, les Gabonais ont enfin pu choisir leur prochain président. Et c'est le général Brice Clotaire Oligui Nguema qui est sorti vainqueur de l'élection de samedi. L'homme qui a mené le coup d'État de 2023 récolte plus de 90% des voix, François Mazet.
90,35 pour être précis, selon les résultats globaux provisoires annoncés en fin d'après-midi. À l'exception de la diaspora, Brice Clotaire Oligui Nguema dépasse les 93% partout au Gabon, ne laissant donc que des miettes à ses adversaires. Alain-Claude Bilibinzé arrive deuxième avec à peine plus de 3%. Les 6 autres candidats ne dépassent pas 1%. Ils ont maintenant 8 jours pour formuler des recours devant la Cour constitutionnelle. La participation a été revue à la baisse par le ministère, 70,4% contre 87% estimé hier soir du fait que les bureaux témoins sont dans les grandes villes. C'est en tout cas la manière dont s'est justifié Herman Imongo, le ministre de l'Intérieur. Alors parmi les déçus, Alain-Claude Bilibinzé a donné rendez-vous demain matin pour une réaction. Autre réaction de la part de ceux qui avaient appelé à s'abstenir, jugeant que ces résultats ont été gonflés. Le syndicaliste Jean-Rémy Diama dit que le général Oligui Nguema n'avait pas besoin des pratiques de l'ancien système pour gagner. Il partage sa tristesse et il dit, je cite, que la transition est entrée par la grande porte, mais qu'elle sort par la fenêtre.
Le compte-rendu de notre envoyé spécial à Libreville, François Mazet. Autre élection présidentielle en Équateur, cette fois. 13 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes dimanche pour le deuxième tour du scrutin. Le dépouillage est en cours avec 45% des bulletins de vote ouverts. Le président sortant Daniel Noboa est en tête. Il devance la candidate du parti de gauche Révolution Citoyenne, Luisa González. L'élection s'annonce tout de même serrée dans ce pays qui est devenu une plaque tournante du narcotrafic, un des pays les plus violents du continent sud-américain. On y déplore un meurtre toutes les heures. Les États-Unis annoncent avoir expulsé au Salvador 10 personnes qu'ils accusent d'appartenir aux gangs MS-13 et Tren de Aragua. Une annonce qui survient quelques heures avant la rencontre à Washington entre le président américain et son homologue salvadorien. Un échange entre Donald Trump et Nayib Bukele au moment où les deux pays renforcent leur coopération dans la lutte contre l'immigration illégale. En mars, 250 personnes avaient été expulsées des États-Unis vers la méga prison du Secot au Salvador, construite par le président salvadorien. Volodymyr Zelensky appelle Donald Trump à venir en Ukraine pour constater les dégâts de ses propres yeux. Avant de prendre une décision, avant toute forme de négociation, venez voir la destruction et les morts, a lancé le président ukrainien durant une interview à la télévision américaine. Cette déclaration survient après la frappe russe qui a fait au moins 34 morts et une centaine de blessés dans le centre-ville de Soumy en Ukraine. Cette attaque en pleine rue et contre des civils est la plus meurtrière depuis le début des négociations orchestrées par les États-Unis en vue d'un cessez-le-feu. Mais vu d'Ukraine, cette possibilité n'a jamais semblé aussi loin. La correspondance à Kiev d'Emmanuel Chaz.
Alors que l'Ukraine avait accepté la proposition des États-Unis d'un cessez-le-feu le 11 mars, la Russie, elle, continue de lancer des attaques contre des civils. L'attaque de Soumy est la plus grave en nombre de morts. Une frappe en plein centre-ville un dimanche dans un endroit tel que Soumy, tout comme à Kryvyi Rih la semaine dernière, sème la terreur au sein de la population. C'est d'ailleurs ce que souligne le président Zelensky en condamnant cette frappe et en qualifiant la Russie d'État terroriste. Semer la terreur, ça peut être une stratégie de guerre pour faire plier une population et tourner l'opinion publique en faveur de négociations les plus rapides possibles, quitte à ce qu'elles soient aux conditions de la Russie. Pour l'instant, l'Ukraine n'y est pas disposée et sur le plan diplomatique, elle est soutenue en cela par ses alliés. On a notamment entendu aujourd'hui le président français Emmanuel Macron et le premier ministre britannique Keir Starmer condamner ces frappes. Mais concrètement, l'Ukraine demande une sécurisation de son ciel et davantage d'aide en ce domaine de la part de ses alliés pour pouvoir se défendre contre de telles frappes meurtrières. Emmanuel Chaz, Kiev RFI.
Et la Maison-Blanche qui vient à l'instant de réagir. Elle qualifie cette frappe de rappel brutal du besoin de négocier pour mettre fin à cette terrible guerre. Le ministre britannique des Affaires étrangères a appelé Israël à cesser ses attaques déplorables contre les hôpitaux à Gaza. L'armée israélienne a bombardé celui d'Al-Ali dans le nord de l'enclave. C'était l'un des rares hôpitaux encore en fonction. Les équipes de Médecins sans frontières opèrent dans d'autres établissements du territoire assiégé et déplore une situation qui ne fait que s'aggraver, faute d'équipement et de matériel suffisant. Julie Faucon est coordinatrice médicale de MSF à Jérusalem-Est.
La situation aujourd'hui est à un niveau catastrophique. Le peu de structures de santé qui sont toujours fonctionnelles sont extrêmement difficiles d'accès. Elles sont difficiles d'accès pour les équipes médicales, mais aussi pour les patients. C'est dangereux. Aujourd'hui, il n'y a pas un seul endroit qui est safe à Gaza. Il y a des ruptures et des manques en médicaments, en traitements, en pansements, en matériel qui sont impensables. Aujourd'hui, pour chaque réponse à un afflux massif de blessés, c'est à peu près 80 transfusions qui sont faites dans les services d'urgence ou dans les blocs opératoires. Et aujourd'hui, les stocks de poches de sang sont extrêmement limités. Plus les structures de santé sont endommagées, plus ça augmente les besoins sur les structures restantes. Voilà, donc c'est aujourd'hui absolument indispensable que des supplies médicaux puissent rentrer à Gaza.
Julie Faucon, coordinatrice médicale de Médecins sans frontières, jointe par Julien Chavanne. 4 jours après leur entrée en vigueur, la Chine appelle les États-Unis à annuler complètement ses droits de douane supplémentaires de 145%. La Maison-Blanche a déjà annoncé une baisse des nouveaux tarifs sur les produits électroniques en provenance de Chine. Ils seront plutôt taxés à 20%. Téléphones, ordinateurs, tablettes, la plupart des appareils achetés aux États-Unis sont fabriqués en Chine. Ils représentent environ 1/5 des importations chinoises dans le pays. En France, la guerre contre le déficit budgétaire continue. L'État devra réaliser entre 40 et 50 milliards d'euros d'économies supplémentaires afin de boucler son budget 2026. Précision du ministre de l'Économie Éric Lombard, interrogé ce dimanche par BFM TV. La France traverse en effet une crise budgétaire marquée par un déficit public bien supérieur aux prévisions, Agnieszka Kumar.
C'est une équation difficile, mais le ministre de l'économie, Éric Lombard, veut maintenir le cap, celui de ramener le déficit public à 4,6% du PIB en 2026.
Je maintiens le 4,6% pour 2026, qui va demander un effort supplémentaire de 40 milliards d'euros. Nous dépensons en dépenses publiques 57% de la richesse nationale. Donc, en réalité, nous dépensons beaucoup, et ce que nous pensons, c'est qu'on peut dépenser moins et dépenser mieux.
Hors de question d'augmenter les impôts, mais le locataire de Bercy, Éric Lombard, n'exclut pas en revanche de pérenniser la contribution des hauts patrimoines qui fixe un taux minimal d'imposition à 20% et qui était jusque-là annoncé comme temporaire. Le ministre compte aussi sur la croissance économique pour augmenter les recettes. Une hausse du PIB de 0,7% est prévue en 2025, mais l'Observatoire français des conjonctures économiques a déjà abaissé cette prévision à 0,5% en raison de l'incertitude politique française et du péril d'un conflit commercial mondial durable.
Agnieszka Kumor du service économie de RFI. En tennis, Carlos Alcaraz s'offre un 18e titre en carrière avec sa victoire en finale du Master 1000 à Monte Carlo. L'Espagnol de 21 ans a pris le dessus sur l'Italien Lorenzo Musetti en trois manches de 3-6, 6-1 et 6-0. Carlos Alcaraz sera de retour sur la terre battue à Roland-Garros à Paris dans un mois et demi, tournoi du Grand Chelem qu'il a remporté l'année dernière. Et voilà, c'est ce qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi.